C'est Raph dans le Dash.
Où est-ce que le petit bonhomme?
Avec Raph Beaupré.
Profitez-en positivement
à Choc 88.7.
Oui, monsieur Arruda, positivement, parce que là, on va parler d'un band que plusieurs personnes aiment. On va parler de Rush, hein, Eric?
Ouais, on va parler de Rush aujourd'hui, puis c'est fou. J'en ai glissé un mot hier sur mon Facebook personnel. Ah, demain, on va parler
du plus réagir, grand
groupe. Hein? Ben oui. Ça a fait réagir. C'est la première fois que j'avais autant de réactions. Pourtant, j'ai même pas nommé le groupe, là.
Non.
On aurait parlé, c'était peut-être Glass Tiger ou un autre. Mais quand j'ai dit le plus grand groupe de l'histoire du Canada.
Tout le monde a dit Rush.
Exactement. Puis il y a eu de la réaction. Puis on les salue tous, hein. Ils sont supposés d'être là.
Ben, on vous salue. Puis je sais qu'il y a peut-être des Français qui nous écoutent parce que toi, du côté de Radio Biz, ta radio web, t'as beaucoup de Français. T'as des Russes qui écoutent aussi. Mais ça me surprendrait qu'ils écoutent, par contre, ce segment-là. Mais, bref.
Des Français, des Belges, des Suisses, beaucoup de franco-allemands. Ouais.
On vous salue, vous êtes les bienvenus sur les ondes de Choc 88.7. Ben oui. Puis, si jamais vous voulez nous ajouter à votre quotidien, on est sur l'application TuneIn, donc Choc 88.7. Et on est aussi sur Internet, comme tu l'as publié, choc887.com, notre site web. Vous pouvez nous écouter en direct de là. Donc, Eric Flynn, notre passionné de musique, on parle de Rush aujourd'hui.
Oui, quel grand groupe de musique à part de ça. Puis c'est pas pour rien, hein, quand on parle d'un grand groupe canadien, du plus grand groupe de tous les temps au Canada, on n'a pas le choix de penser à Rush, même sans rien enlever à tout ce qu'on a aussi. Mais Rush a vraiment une coche au-dessus, et même au niveau mondial, ils ont vraiment une coche. Ils ont quand même vendu au-dessus de 50 millions d'albums
c'est
en tout. Ouais. Et c'est on dit que c'est un groupe de Toronto, mais il y a Alex Lifeson, le guitariste, lui, de son côté, il est né en Colombie-Britannique.
OK.
Gadili, celui qu'on entend chanter, c'est un gars de Toronto. Il était pompiste, lui, avant, lorsqu'il a commencé avec le groupe.
OK.
Et Neil Peart, qui est de d'Hamilton, en Ontario aussi. Mais il y a aussi le premier batteur du groupe. Lui, de son côté, c'est ça, c'est un autre de Toronto, là. Donc, c'est ça. Et puis, aussi, bon, Lifeson, lui, de son côté, il travaillait dans une épicerie pour sa mère.
Hein? Ouais. Fait que ça a été vraiment du tout au tout, là.
Ouais.
De job que monsieur et madame tout le monde peuvent tout faire sans aucun problème. Puis le lendemain matin, à force de travailler puis de s'acharner sur sa passion, ils sont devenus un band international.
Effectivement. Et on entend, là, justement, l'influence rock'n'blues, l'influence des Yardbirds aussi, des Creams. On sent un petit peu d'Eric Clapton, de Jimmy Page. Et justement, ça, c'est pas un hasard, c'est que les gars sont vraiment très influencés, justement, dans ce mouvement-là. Et puis, c'est ça. Donc, ils ont essayé à Toronto de trouver des maisons de disques qui pourraient les accueillir. À cette époque-là, on cherchait plus un son beaucoup plus folk, comme Neil Young, Johnny Mitchell, Robbie Robertson. Et en fin de compte, c'est une maison indépendante, Moon Records Label, qui les a engagés. Alors, ils ont sorti un premier album, l'album éponyme, qui a un son qui ressemble beaucoup à Led Zeppelin. Et c'est avec leur premier batteur, John Rotsey, qui c'est pas le Neil Peart qui était là en premier, c'est John Rotsey qui a été le premier batteur. Lui, il va décéder en 2008 de la diabète. Alors, mais sauf que, il a quand même été au début, là, il était là avec eux, mais finalement, il a décidé de quitter le groupe.
À quel âge?
Ça, c'est une bonne question.
Okay, j'ai pas. Mais il était pas vieux, il me semble.
Non, en 2008, quand même, c'était pas vieux. Et puis, c'est ça, c'est le 11 mai 2008. Mais c'est ça, la date.
Non, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Mais tout ça pour dire qu'il était pas vieux, là.
Ben, c'est ça. Ah non, il était vraiment pas vieux, là. Et puis, c'est ça. Le groupe a été fondé, je pourrais te le dire, l'année qu'il est né, en 53.
Okay.
De 53 à 2008. Alors, c'est ça.
C'est ça, il y avait une soixantaine d'années.
Exactement.
Ben, c'est pas vieux, on s'entend. Là.
Non, ben, c'est ça. Donc, le groupe a été formé en 1968, quand même, en pleine période Peace and Love, en pleine période psychédélique. Et eux, ben, comme on disait, sont plus dans le style là, rock and blues à la Clapton, l'influence de Led Zeppelin et même. Dans leur début, là, on sent vraiment le petit côté. Ils vont influencer beaucoup de groupes, hein. Soit dit en passant, des groupes comme les Smashing Pumpkins seront influencés par Rush. Metallica aussi, on peut ajouter Metallica, Dream Theater, bien entendu. Primus, Symphony X, c'est la même chose. Ce qu'on entend, là, ça, c'est leur premier succès. Et c'est ça, puis ça, c'est une... Oh, on pourrait écouter un petit bout, là. Ça, c'est
Fly By Night.
Fly By Night, yeah. Ça, c'est en 1975. C'est avec Neil Peart. Donc, c'était avec les débuts avec Neil Peart. Et Neil Peart, lorsqu'il est arrivé, ben lui, il faisait de la musique... il reprenait des pièces de Pink Floyd, des pièces de King Crimson. Alors, c'est quand même assez spécial parce que c'est un son qui est progressif.
Oui, oui,
où la batterie n'est pas... sans rien enlever
si
à la batterie.
Si tu es capable de faire du rock progressif, peu importe l'instrument que tu joues, là, on s'entend que tu es un génie de la musique. Là, si tu es capable de suivre, parce que c'est de la musique qui est décomposé pour être composé. En tout cas, je sais pas si je vous le fais visualiser très très bien, mais des fois c'est du rythme qui est infaisable, sauf si t'es un génie là.
Ouais.
Après ça, c'est sûr et certain que t'es capable de faire n'importe quel style de rock là.
Ouais, effectivement.
Tu peux t'adapter, tu peux composer, tu peux faire preuve de créativité là, un peu avec un band comme Rush. Là.
Ouais, effectivement. Puis avec Neil Peart, justement, on pourrait parce que sont trois, OK?
Ouais.
Sont trois dans le groupe. Quand on les écoute, surtout en show, t'as l'impression qu'ils sont huit sur cinq, là,
oui.
Alors, juste pour définir un petit peu les instruments, pour donner une idée à tout le monde. Bon, il y a Alex Lifeson, lui, c'est lui qui s'occupe du synthétiseur, qu'on va connaître un petit peu plus tard, là, dans la carrière du groupe, et aussi la guitare. La basse, c'est Geddy Lee, celui qui chante. Et il touche un petit peu au clavier, il touche un petit peu aux guitares, mais c'est surtout les paroles où il va vraiment là s'accentuer. Tout comme Neil Peart, qui va toucher beaucoup les paroles aussi. C'est vraiment lui, là, même qu'il va prendre le dessus là, au niveau des paroles. Et la percussion puis les batteries, c'est pas mal lui aussi. Ouais. Là. Je pense qu'avec sa réputation, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au niveau des paroles des chansons, c'est vraiment Neil Peart là, qui a, mettons, on peut dire 80% des chansons, c'est lui.
Mais c'est rare un chanteur qui chante en ne faisant pas la guitare, mais la basse.
Ben, il y en a plusieurs, quand même.
Ah oui, OK. Ouais. Ben, en fait, moi, dans ma tête, il n'y en a pas tant que ça.
Il y a un dénommé McCartney, je pense.
Oui, je le sais, je le sais.
Simons.
Mais il n'y en a pas
non, y en a
tant
pas à
que
ça. C'est vrai,
la majorité
c'est vrai
des gens vont s'accompagner d'une guitare ou va tout simplement prendre le micro ou le tambourin ou des choses comme ça.
Ouais, effectivement.
Ou le clavier, on l'a vu souvent, ça, plus que des bassistes, là. En tout cas, c'est peut-être moi, là.
Non, mais c'est sûr que oui, il y en a, mais... pas autant là justement que des guitaristes par exemple.
Oui.
Là. Ça c'est sûr là. Alors effectivement donc le groupe commence un petit peu à faire sa place même dans le monde hard rock, ce qu'on appelait un petit peu plus le heavy rock à l'époque. Donc on a entendu Fly By Night, ça c'est basé sur une expérience qui a été vécue par Neil Peart lorsqu'il était jeune. C'est que bon il a vécu un petit peu à Londres et c'est ça avant de rejoindre le groupe. Même s'il est canadien, bien entendu. Et c'est ça, ça a été une petite expérience là de jeunesse là qui raconte un peu justement le fly by night, le départ rapide là.
Ouais, oui.
Je suis pas trop en français. L'expression en français qu'on pourrait le remplacer. Là, mais,
parti vite en ça, québécois là, mais je pense que c'est pas la bonne expression du tout.
En tout cas, ça ressemble un petit peu à ça. Et également aussi qu'il y a. C'est ça, puis bon, les gars, les paroles, c'est fou. On va aller chercher des fois des poètes comme on va pouvoir en nommer tantôt, mais comme Anthem, justement, qui fait partie de l'album, qui a des paroles qui sont largement inspirées de la philosophie de Anne Rand, qui est vraiment bon, qui vraiment c'est le début de l'apogée du groupe avec l'album 21-12. Alors, c'est ça. Et puis là, ils arrivent avec aussi l'album Caress of Steel. Puis ça, ben justement, là, ça, c'est The Bastille, hein?
Oui.
Yeah.
Bastille.
Yes. Et avec ça, le groupe va réussir vraiment à se percer vraiment au Canada et aussi aux États-Unis. Mais pas encore en Angleterre. En Angleterre, ça va venir.
Ça
prend
un peu plus de temps,
oui. Oui, effectivement. Et sauf qu'au niveau progressif, dans le style qu'ils font, comme là, on n'a pas de clavier du tout encore.
Non.
Et c'est un style qui plaît vraiment là, pour les Nord-Américains. Là. C'est vraiment là dans ce style-là. La volonté du groupe était aussi d'y aller avec cet album-là. Bon, on parlait de Caress of Steel, qui pousse vraiment. Et là, ce qu'on entend, c'est un extrait. Ça, c'est To Farewell of King.
A Farewell to Kings.
A Farewell to Kings, yes. Moi qui m'a pas mes notes devant moi, alors...
Il n'y a pas de trouble dans ce sens-là. Ben, tu me fais des gros yeux, je vais le dire pour toi.
Donc, ben, on pourrait écouter un petit bout. Ça, c'était un chef-d'œuvre musical.
On avait ajouté justement le xylophone, on avait ajouté le piano. Est-ce que les premiers albums, si je ne me trompe pas, n'avaient pas?
Non, c'était juste du cordes et vraiment avec la percussion et la batterie. Mais c'est ça. Là, on a commencé vraiment là, à jouer un petit peu là-dessus. Il faut dire que Neil Peart, lui, son idole, ben, j'ai le même idole que lui, c'est Syd Barrett de Pink Floyd. Ouais.
Okay.
Et c'est la raison pour laquelle le côté sa fascination envers la science-fiction. Ben, c'est justement inspiré de l'époque de Syd Barrett avec Pink Floyd.
Tu dis, c'est quasiment des hommes orchestres.
Ah, ben oui.
Ils ont tellement d'instruments. Là. Lui qui en a le moins, c'est le chanteur.
Ouais.
Tu sais, à la fois, là. Mais les autres ont accès à plus qu'un instrument, puis c'est incroyable. Ils sont peu pour beaucoup, là.
Ah, effectivement. Puis cet album-là, c'est un album qui est inspiré. Leur influence, ben leur inspiration, c'était l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Ce qui est complexe.
Ouais.
Je sais pas si t'as fait cette remarque-là, puis je peux être complètement dans le champ, mais j'ai remarqué que les bands phares, que ce soit dans les années 80, les années 70, les années 2000, peu importe, là, nommez-les, à partir des années fin 60, je vous dirais à aujourd'hui, les voix masculines qui ont plus de succès en majorité ont des voix plus aiguës. À part si on enlève, mettons, les Rammstein de ce monde, qui ont une voix plus grave, les voix aiguës sont plus populaires. Quand on va dans les années, en descendant les années 50 ou début 60 en descendant, c'est les voix d'hommes qui sont un petit peu plus graves. Rappelez-vous, mettons, les Mr. Sandman, les Frank Sinatra, etc., etc., les Mills Brothers. C'est toutes des voix qui sont plus... un coffre, là. Avec le blues, le jazz et tout ça, là, j'étais un peu dans les crooners, là, mais le blues, le jazz également, c'est des voix qui étaient plus graves. Mais plus qu'on montait dans les années fin 60, 70, 80, 90, 2000, le classic rock, il y a beaucoup de voix qui sont très aiguës. Pensez à Yes. Écoutez, là, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, là, mais il y en a en motadine. Même Alice Cooper, on peut dire qu'il y a une voix plus grave, mais pas tant que ça.
Non.
C'est quelque chose qui me frappe là, en réécoutant du Rush avec toi, puis je peux me tromper complètement, mais on dirait qu'ils ont une voix qui est portée à être très mélodieuse puis très accrocheur.
C'est vrai.
Dieu sait que c'est le contraire de la radio, parce que quand on a une voix très, très aiguë à radio, ça tape ses nerfs. Alors, pour le restant du show, Eric, je vais te parler comme ça.
OK.
Non, je ne pas ça. Aïe, aïe, aïe. Ceci dit, on poursuit.
A Farewell to King. Donc, là, on est en 1977. Là, c'est l'album Hémisphère. Et ils vont y aller avec... une pièce qu'on peut dire une balade à part de ça. Et puis, malgré que l'album, qui est un album qui est beaucoup plus bluesé, progressive et même un petit peu plus métal, ben il va avec une excellente balade. C'est peut-être la première balade, là, Closer to the Heart.
J'avais pas peur à toute la bonne tune, fait que voilà.
Ouais, y a pas de souci. Et c'est quand même assez rare que Rush vont nous faire des balades. Il y en a une ou deux, mais pas plus que ça. Mais quand ils en font, c'est vraiment bon, par exemple.
Chaque band qui est considérée classic rock ont des bonnes balades. Au moins une.
C'est vrai.
And the men who hold high places must be the ones who start to mold a new reality closer to the heart. Closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art. They forged their creativity closer to the heart. Yes, closer to the heart.
Toute une balade.
Vraiment.
Il y a d'autres chansons qu'on a là-dessus dans cet album-là, qui est l'album Hémisphère, La Villa Strangiata, qui, elle, c'est une pièce instrumentale. Et lorsque les gens voilà, écoutent la chanson en show, ben là, c'est là vraiment que les gens sont surpris que... Hey, mais ils sont juste trois sur scène.
Oui, oui,
t'sais, c'est vraiment
oui.
Là, ça frappe, là, tu sais. Et puis, justement, ben ça, c'est un clin d'œil du roman... d'Ernest Hemingway, pour ceux qui le connaissent, c'est L'Adieu aux âmes. Alors ça, c'est un petit clin d'œil là-dessus. On retrouve aussi la pièce Yanadu, qui est inspirée par un texte de Kubra Khan, sorti en 1797. Et ça, c'est par le poète hein, qui a influencé beaucoup de la musique d'Iron Maiden, Samuel Taylor Coleridge, dont la pièce The Rhymes of the Ancient Mariners. Alors, ben eux aussi, ils ont eu la même influence de ce fameux monsieur Taylor Coleridge. Alors, c'est ça. Et quoi dire, la guitare rythmique qu'on a vraiment accentuée dans ce groupe-là. Le groupe termine les années 70 vraiment du bon pied. Ils sont connus maintenant à travers la planète. C'est le succès qui est vraiment du côté de Rush. Par contre, la période des fameux dinosaures des années 70, c'est pas mal tiré vers la fin. La musique progressive, le art rock, comme on dit. Alors, c'est les années 80 qui vont arriver, puis ils devront s'ajuster. Et ils manqueront pas leur coup, ça c'est sûr. Yes, Closer to the Heart. Closer to the Heart, qui était à cette époque-là la chanson la plus populaire du groupe. Là, on tombe vraiment au Québec, à part de ça, dans nos studios Morin Heights. Même si vous allez sur le vidéoclip...
fabriqué comme, chez nous.
Ouais. Made in Québec, dans le Nord, dans les Laurentides, dans les pays d'en haut, comme disait l'autre. Alors, effectivement, puis on le voit, le décor, la neige, les montagnes, tu sais, c'est vraiment le Québec. Alors, le groupe s'en va au Québec pour enregistrer les prochains albums, et même plusieurs albums, jusqu'à Presto, à la fin des années 80. Ben, jusqu'à temps que le studio passe en feu, parce que c'est ça qui est arrivé à la fin des années 80.
Ouais.
Le studio a passé en feu et puis c'est ça. Donc, sinon, les gars, il aurait continué même dans les années 90. Et c'est ça. Donc, on y va en musique. Yes, avec Rush.
Limelight.
Oui, effectivement. Et dans cet album-là, il y a une des pièces qui est Constance. Ben, pourquoi pas être au Québec? Ben, un bout que Geddy va chanter en français. Il va mentionner « Plus ça change, plus c'est la même chose.
» Ben, surtout ces jours-ci, là, en fait, ça change pas vraiment. Là. C'est
non,
juste
«
Plus
ça.
C'est la même chose. »
Yes, effectivement. Et on sent vraiment là, les années 80 avec un rock beaucoup plus corporatif, hein, parce qu'à cette époque-là, c'est les Journey, les Boston qui ont changé de style aussi.
Justement, YouTube me propose Journey du Boston juste à côté de Rush sur YouTube.
Ben, justement, parce que là, c'est le entre guillemets, un nouveau mouvement musical, le rock FM, parce que bon, si on y va avec au niveau de la radio, faut dire aussi que à cette époque-là, les stations FM prennent beaucoup de place, beaucoup plus que le AM, parce que là, on arrive avec un son beaucoup plus stéréo, beaucoup plus agréable à écouter pour l'auditeur. Donc, ça incite vraiment les groupes à s'ajuster aussi à la nouvelle mode, parce que le FM existait quand même depuis deux décennies environ. Mais là, c'est là vraiment là où le FM commence à prendre beaucoup de place, parce que avant ça, c'était le AM un peu partout.
En fait, ça, on va le revivre plus tôt que tard. En fait, quand je dis plus tôt que tard, les années passent vite, là, d'ici 15, 20, 25 ans, là. Ben, on va peut-être voir le FM se transférer vers le web avec les podcasts et tout ça, là. Les ondes publiques vont peut-être être rendues une forme de place où on va donner l'information et qu'on va promouvoir le web. Ouais. Et non le contraire.
Effectivement.
Donc, tu sais, le AM au FM, on l'a vécu, mais le FM au web, on va peut-être le vivre. Seul l'avenir va nous le dire, mais de plus en plus, les gens sont vers le web.
Yes.
Écoute, Eric, notre passionné de musique, me permets-tu de faire une courte pause? On va finir Limelight,
yes,
puis
sûr,
on va aller en pause.
Avec Raph Beaupré.
Ça a l'air qu'on en avait pour 10 heures de show, Eric.
Ben, c'est ça que t'as dit au début, hein?
Ben oui, je l'ai dit, puis je l'ai senti, hein? Fait que, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre un peu sur la note de Rush. On va vous donner fin pour que la semaine prochaine, on termine les années de Rush au complet, leur histoire au complet, jeudi prochain. On va aller dans les années 80, les années importantes de Rush. On va tout débouler pour vous. Donc, ça va nous faire plus de plaisir pour ce
Ben,
canadien.
C'est ça. Puis, pas de musique à part de ça, on se trompera pas. Puis, bien entendu, on est toujours à Morin Heights, au Québec. Ils se sont associés avec le réalisateur Terry Brown. Puis là, ben, ils ont sorti ce chef-d'œuvre, Tom Sawyer.
Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer,
un seul défaut de cette chanson-là, et c'est sa qualité à la fois, c'est qu'à l'extérieur, on voit de la neige dans la vidéo. Honnêtement, moi, je...
Ouais, je trouve ça cute, moi. Au contraire, tu sais, ça fait...
Ben, je suis contente. Parce que je sais que c'est à la fois un de ses défauts puis une de ses qualités comme, sur cette chanson-là, c'est que je suis contente de savoir si c'est produit au Québec. Mais en même temps, de la neige...
Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, ça fait pas un super de beau décor.
Mais pour eux autres, c'est exotique, tu sais.
Ben, c'est ça. Puis tu fais juste ce clip-là, je suis sûr que ça a été... Ça a eu un charme du côté européen.
Mais c'est ça que je dis, c'est exotique pour ailleurs. Là.
C'est ça, exactement. Mm. C'est sûr que pour nous, ça fait cliché. Là,
oh, oui.
On le voit, bah, c'est au Québec, ça paraît, il neige dehors.
Puis tu sais, ce qui est le pire, c'est qu'il y a plein de studios au Canada. Il y aurait pu aller à des endroits qui ne sont pas aussi blancs. Mais là, on voit juste des bouleaux puis de la neige.
Ouais, ben, même, il y en a eu plusieurs qui ont enregistré dans ce studio-là. Je sais qu'il y a Sting, il y en a plusieurs. Là. Mm-hmm.
Rappelle-moi le nom du studio.
Ça, c'est celui de Morin Heights.
Morin Heights. C'est lui qui a pogné en feu, ce que tu vois.
Oui, effectivement. ça, ça fait partie de l'album Moving Pictures, sorti en 1981. On a entendu tantôt, juste avant la pause, la pièce Limelight, qui est un des meilleurs albums de l'histoire du groupe. Et là, ça lance vraiment bien les années 80. Le groupe s'ajuste au niveau la nouvelle décennie qui arrive. T'sais, ils ont lâché un petit peu le côté progressif. Ils sont allés avec un rock beaucoup plus corporatif qui s'adapte très bien à la radio FM.
Totalement.
Effectivement. Et puis ça a été une pièce qui a été numéro 1 pendant 6 semaines au Canada.
Ah, c'est du stock, ça?
Tom Sawyer.
Au Canada?
Au Canada.
6 semaines.
Ouais. On les aime-tu, hein?
Ah ouais, on les aime. Donc, on en reparlera de Roche la semaine prochaine, jeudi prochain. D'autres chansons, d'autres classiques. On va parler des années 80, surtout comme tu nous en as fait part tout à l'heure.
Ouais.
Et donc, ce n'est pas terminé. Et sur ça, on a quelques petites nouvelles à partager, commençant par Kiss. Pas fini, finalement?
Non, ils nous ont dit que le 31 décembre prochain, on va faire un dernier show pour nos fans. Ça sera présenté partout sur la planète, sur streaming, à Dubaï, nanani, nanana.
C'est tout le temps de même avec Kiss.
C'est toujours... Ben là, ils ont entendu parler que... Ben, au niveau de la COVID, ça va très bien en Australie, puis on est en train de tuer la COVID tout simplement du côté australien. Ils ont dit, tiens, OK, ouais, vous faites des concerts, vous allez faire des concerts avec des gens, puis des grandes salles, des stades, puis ben, pourquoi pas aller faire 5 concerts là-bas? Donc, le Farewell Tour qui dure depuis 1996 continue.
Depuis 1996. Ouais. Hey, ça va faire 25 ans.
Ouais,
ça pas
là, c'est The Very, 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 Very Farewell Tour.
Oh, le Very, Very, c'est ça. Farewell Tour.
Dans 2 ans, ça sera un Very de plus.
Aïe, aïe, aïe. Puis, y en avait-tu une petite dernière pour nous?
Oui, ben, on pourrait célébrer. Hier, c'était en 1978, la sortie du single Roxanne avec The Police.
Oh.
Qui est un grand classique. Je voulais juste vous raconter un petit peu qui est Roxanne, la fameuse Roxanne en question. Bon, si on écoute un peu les paroles, on va comprendre un petit peu que c'est relié à une fille, une prostituée d'Amsterdam. Ce qui est vraiment pas le cas, c'est vraiment une prostituée, oui, d'un concert que Sting a fait avant de qu'il était avec The Police.
Okay.
Il avait fait un concert à Paris, puis ça vient d'une Parisienne, parce qu'il était dans un motel miteux, puis c'était un coin où il y avait beaucoup de prostituées. Et il a croisé une prostituée. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Ça, c'est pas de mes affaires.
Non,
mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que c'est inspiré le nom. Il a vu une affiche de Cyrano de Bergerac.
Bergerac.
Et puis, la personnage principale, elle se nomme Roxanne. Ça vient de là.
Ah, tout simplement.
Ouais.
Ah, ben, on la salue. Salut Roxanne!
Bye-bye!
Ceci dit, merci d'avoir été à l'écoute sur les ondes de Choc 88.7 de votre retour à la maison de Portneuf-Lobinière. On se retrouve demain à compter de 14h pour ouvrir la fin de semaine. On est vendredi, ça passe vite! Salut là!
Bye-bye!
Jusqu'à 18h, c'est Raph dans le Dash. Choc 88.7. Go!